Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Sens de la supplication. Je l'exprime ainsi, en forme de prière. Ô Dieu Père, toi qui, dans une nuit de désespoir, crucifia ton Fils, qui, dans cette nuit de boucherie, à mesure que l'agonie devint impossible, a crié, devint l'impossible toi-même, et ressentit l'impossibilité jusqu'à l'horreur. Dieu de désespoir, donne-moi ce cœur, ton cœur qui défaille, qui excède et ne tolère plus que tu sois. Pour Georges Bataille, Dieu n'est pas. Il n'est pas du moins au sens purement catholique du terme. Ce n'est pas un être transcendant à qui on doit une adoration inconditionnelle. Dieu, c'est un mot sans fond, un nom référent. Dieu, c'est également ce qu'il appelle la nuit, ou le fond des mondes. Une négativité absolue qui se place à l'horizon de l'œuvre tout entière de Bataille. Il n'y a pas chez lui de respect de la hiérarchie, qu'elle soit éthique ou métaphysique. Se frayer un chemin dans son œuvre, c'est accepter le renversement constant de toutes nos certitudes, de tous les systèmes que notre rationalité s'est construite depuis notre plus tendre enfance. Il ne s'intéresse pas au savoir au sens positiviste du terme, mais bien à l'absence, au sacrifice, à la mort, développant le long de son œuvre sinueuse une forme de naissance voilée. Bataille, c'est celui qui détruit les idoles et nous arrache à nos repères. C'est celui dont la vie fut consacrée à brouiller les cartes, pour tracer un chemin entièrement nouveau, s'aidant de ceux ouverts par une mystique chrétienne dont il radicalise la méthode et élimine le dogme. Ce numéro de Profil perdu de Marc Floriot, diffusé pour la première fois le 12 mai 1988, prend la forme d'une enquête sur la personne même d'un iconoclaste doté d'une foi hors norme, presque négative. Il est raconté ici par ses amis proches, les témoignages de Francis Marmande, Jean Piel, Jean-Pierre Faye, Bernard Noël, Philippe Solers et Michel Léris viennent se rajouter aux interventions de Michel Suria, éminent biographe de Georges Bataille. Une émission dense et riche donc, dressant le profil perdu de Georges Bataille, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Il y a toujours, je crois, chez l'homme, cette nécessité de se supprimer en se conservant.
Oui, c'est de la voix même de Bataille. Et non plus de ces écrits si beaux d'où je lève un instant les yeux que cette histoire malvenue de l'homme peut commencer. Cette voix est Philippe Solers, Michel Suria, Jean-Pierre Faye, Roger Caillois, Bernard Noël, Francis Marmande, Michel Léris et Jean Piel vont dessiner les profils perdus de Bataille, dont la gymnastique tendue de l'esprit ou des sensations est encore parfois si méconnue. Bataille est bien sûr célèbre, et son nom revient bien souvent, ici ou là, au premier plan de tel ou tel combat intellectuel, esthétique, social. Mais bataille drapeau, bataille emblème, son trajet exemplaire est bien trop souvent limité à l'exemple d'un écrivain maudit parce qu'érotique, d'un penseur excessif et insaisissable parce que non universitaire, d'un homme tourmenté parce qu'intransigeant et complexe. Je dirais volontiers, confie Georges Bataille, que ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir brouillé les cartes. C'est-à-dire d'avoir associé la façon de rire la plus turbulente et la plus choquante, la plus scandaleuse, avec l'esprit religieux le plus profond. C'est qu'il est brouillé les cartes qui nous intéressent ici. Bataille paradoxale et en action, sa pensée en action, en train de se faire et de se défaire, dans l'échange d'un combat personnel et d'une politique. Ni la vie, ni l'œuvre, donc. Mais pour cette fois, Georges Bataille, roman. Le roman, c'est-à-dire de ses opinions, ou leur genèse, si l'on veut. L'œuvre est vaste, multiple, inachevée. La vie est complexe, passionnée, et ne le cède en rien à l'écriture. Elles donnent toutes deux, indissociablement, le texte bataillien. Ce sera une première heure suivie d'une autre, Georges Bataille, politique, d'où sera dégagée, au fil du temps, la permanence d'un ton, d'arrière-plan ou de front, articulé sur le politique, de celui qui n'eut de cesse de rassembler, d'éveiller, de concentrer les foyers d'énergie intellectuelle, amoureux, politique, artistique, jusqu'à leurs limites. On me parle de mon univers insupportable, comme si je voulais dans mes livres exhiber des plaies, comme le font les malheureux. Il est vrai qu'en apparence, je me plais à nier, au moins à négliger, à tenir pour rien les multiples recours qui nous aident à supporter. je les méprise moins qu'il me semble, mais assurément, j'ai hâte de rendre le peu de vie qui m'échoit à ce qui se dérobe divinement devant nous.
J'ai vu sur un toit de grands et solides crochets dressés à mi-pente. À supposer un homme tombant du faîte, par chance, il pourrait s'accrocher à l'un d'entre eux par le bras ou la jambe. Précipité du faîte d'une maison, j'irais m'écraser au sol. Mais qu'un crochet soit là, je pourrais m'arrêter au passage. Un peu après, je pourrais me dire, un architecte, un jour, a prévu ce crochet sans lequel je serais mort. Je devrais être mort, il n'en est rien, je suis en vie, on avait mis un crochet.
Philippe Solers.
Ma présence et ma vie seraient inéluctables, mais je ne sais quoi d'impossible, d'inconcevable en serait le principe. Vous voyez, ça résume très très bien, à mon avis, tous les mouvements de la pensée de Bataille. Quand je repense à lui, 6000 en tant que souvenir physique, à ce mouvement de pensée, à savoir que la chance, le hasard, le clinamen, la chose absolument imprévisible qui peut se passer à n'importe quel moment, le choc qui peut être enregistré tout à fait par hasard, pas du tout d'une façon surréaliste au sens du hasard objectif qui revient à la coïncidence de deux séries dénombrables, si ensuite on les analyse, mais vraiment comme une chose absolument imprévue, instantanée. Bataille est dans l'instantané, c'est pour cela que ces récits sont des récits malaisés à lire pour quelqu'un qui n'a pas le sens de l'instant. Il a voulu charger ses romans admirables de ces trous de temps qui sont extraordinaires dans Le Bleu du Ciel ou dans Histoire de l'œil ou dans Madame Edwarda. C'est-à-dire une expérience extrêmement intense de quelque chose qui se révèle comme un abîme, mais on reste raccroché. Au moment où on tombe, le temps d'avoir la fulguration, de la révélation de cette chute. Hein, l'homme est en état de chute. C'est pas seulement parce qu'il a chuté d'un paradis imaginaire où il aurait pu se tenir debout sur un sol stable et divin. C'est parce qu'il est lui-même une chute. Et ça, je trouve que c'est une idée très forte, une expérience très nouvelle qui nous a été apportée par cet homme si doux et si calme.
Seul l'être idéal de la société, celui qui ordonne et prohibe avec autorité, s'exprime dans les compositions architecturales proprement dites. Ainsi, les grands monuments s'élèvent comme des digues, opposant la logique de la majesté et de l'autorité à tous les éléments troubles. C'est sous la forme des cathédrales et des palais que l'Église ou l'État s'adresse et impose silence aux multitudes. Il est évident, en effet, que les monuments inspirent la sagesse sociale et souvent même une véritable crainte. La prise de la Bastille est symbolique de cet état de choses. Il est difficile d'expliquer ce mouvement de foule autrement que par l'animosité du peuple contre les monuments qui sont ses véritables maîtres.
Michel Suria.
Bataille est né en 1897, non pas à Paris, mais dans le Massif central, d'une famille modeste, d'un père qui, avant qu'il fût malade, était un modeste fonctionnaire, d'une mère sans emploi, d'une famille de ce qu'on pourrait appeler de la toute petite notabilité provinciale, exactement à Billon, un père dont il faudrait dire, parce qu'il est une figure quand même récurrente de l'œuvre de Bataille, qu'il n'a pas conçu ce fils qui était le second, le dernier, dans les conditions les plus claires, les plus conventionnelles. Aristide Bataille, le père de Bataille, au moment où il conçoit Georges, le second de ses fils, est un homme atteint de la syphilis, déjà aveugle, et qui sera 3 ans plus tard, après la naissance de Bataille, paralytique. Il vivra donc, cet homme, le père de Bataille, depuis la naissance de Georges Bataille en 1897, 18 années jusqu'en 1915, une vie d'homme extraordinairement diminuée.
Et oui, en effet, il arrivait que mon père reste dans la pénombre, puisque allumer une lumière n'avait pas de sens pour lui. Si personne d'autre n'était là que moi, personne n'allumait de lampe. Et je restais là, je me rappelle, dans un état de prostration et de dégoût même, très profond.
La représentation d'un visage ascétique, les yeux brûlés, les os saillants, m'oppresse, songeant à moi-même. Mon père aveugle, des orbites creuses, un long nez d'oiseau maigre, des cris de souffrance, de longs rires silencieux. J'aimerais lui ressembler. Je ne puis me passer d'interroger les ténèbres, et je tremble d'avoir eu sous les yeux, dans tous les temps de mon enfance, cet ascète involontaire, angoissant.
En 1914, c'est la déclaration de la guerre. Reims, c'est une ville qui se trouve sur le front. C'est une ville pour laquelle ordre est donné d'évacuation. Madame Bataille, la mère de Georges Bataille, Georges Bataille, qui à ce moment-là a 17 ans, fuit la ville. Mais pas le père de Georges Bataille, qui, paralysé, n'est pas en mesure de le faire. Il y vivra encore un an. Et il périra dans cette ville, non par le fait des bombardements qui seront très nombreux, par le fait de la maladie seulement. Bataille ne reverra pas depuis août 14, date à laquelle il le quitte, jusqu'à novembre 1915, date de la mort du père, il ne le reverra pas vivant. C'est aussi l'un des souvenirs récurrents de la voix de Bataille.
Ce qui me semble si singulier dans son rapport à la Première Guerre mondiale, c'est la fuite avec la mère et le père qui reste.
Jean-Pierre Faye.
Vissé, ligoté, pour ainsi dire, sur sa chaise de paralytique et qui meurt derrière eux. Et dont tout à coup, il retrouve le visage lorsque l'heure devient mourante, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Et la comparaison étrange entre ce vieillard... effrayant, dont on a quelques photos, et puis la beauté de l'or nous surprend. Mais dans les deux visages, il voit une sorte d'oiseau nocturne et terrible, qui est porteur pour lui de la culpabilité. Le coupable, ça va être de penser à la mort de l'or qui a lieu en 38, et qui est l'anniversaire anticipé du déclenchement, enfin de la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale.
Chaque homme est étranger à l'univers, appartient aux objets, aux repas, aux journaux, qui l'enferment dans sa particularité, le laisse dans l'ignorance de tout le reste. Ce qui lie l'existence à tout le reste est la mort. Quiconque regarde la mort cesse d'appartenir à une chambre, à des proches. Il se rend au libre jeu du ciel.
En août 14, se passe une deuxième chose, qui est considérable en importance dans la jeunesse de Georges Bataille, c'est sa conversion au catholicisme. L'enfance et la première adolescence de Bataille ont été soit athées, soit indifférentes à la religion. Athée pour le père, indifférente à la religion pour la mère. Bataille n'a pas été baptisé. En août 14, à Reims, il se fait baptiser. On constate qu'il y a une parfaite simultanéité de la conversion au catholicisme et de l'abandon du père de Georges Bataille.
Pour ma part, je ne vois pas de nécessité de nommer un Dieu immanent, et il m'a toujours semblé qu'à partir du moment où l'on nommait Dieu, on désignait une transcendance, parce qu'on définit Dieu en le nommant.
Entre une femme, un supplice et l'univers risible, il est une sorte d'identité. Il me donne envie de me perdre. Encore est-ce une considération limitée. Ce qui compte est l'altération de l'ordre habituel à la fin. L'impossibilité de l'indifférence.
Alors il y a une métanoïa, ou une épistrophe, comme on dit chez les platoniciens, qui va vers le catholicisme. Tout ce qui va suivre va être une série de ruptures par rapport à ce premier moment qui est lui-même rupture. Mais ce qui est intéressant également, c'est que ça se passe au seuil d'une guerre et que les deux guerres mondiales deviennent pensives à nos yeux à travers lui. Dieu sait si elles furent pensées de travers par tant des plus notoires ou des plus grands même. Là, je crois qu'on aura des fils conducteurs importants.
La guerre peut être considérée de deux points de vue. Pour bien des gens, la guerre est une politique. Et une politique brutale et violente. Par exemple, pour Clausewitz, n'est-ce pas, la guerre prolonge la politique de la paix. C'est-à-dire que la guerre a un but tout à fait précis, qui est en somme d'imposer sa volonté aux gens que l'on combat, aux gens que l'on qualifie d'ennemis. Mais la guerre a été quelquefois autre chose. Dans des conditions primitives, la guerre n'avait même aucun sens matériel. La guerre était simplement une sorte d'exercice, et d'exercice d'une allure nettement tragique, ce qui réserve le sens de ce que je voudrais dire. La guerre a d'abord été un jeu, et c'est, je crois, en tant que jeu que Nietzsche la valorise. Seulement, il faut entendre les choses. Il faut apercevoir quelle sorte de jeu est la guerre. La guerre est un jeu suprême, la guerre est un jeu tragique. C'est un jeu dans lequel on met sur le tapis vert absolument tout ce que l'on a, sa vie compris. Et je crois que c'est ce que Nietzsche a aimé dans la guerre, parce que pour Nietzsche, essentiellement, la vie était un jeu. Nietzsche a dû certainement apercevoir qu'il n'était pas de jeu supérieur à la guerre, puisque c'était le seul dans lequel l'enjeu était total.
Et alors, ces conversions sont des sortes de retournements brusques, dont il y a un deuxième exemple, probablement au seuil de la Deuxième Guerre mondiale, et qui est une conversion à une mystique, mais athéologique. Qu'est-ce que c'est que ça, cette athéologie? Mais je pense que le moment de 1914 est un prélude.
Aimer à crier, abîmé dans la profondeur fêlée, fulgurante. Il n'apporte plus de savoir ce qui est au fond de l'abîme. J'écris encore brûlé, je n'irai pas plus loin. Je ne pourrai rien ajouter. Je ne puis décrire l'incendie du ciel, ce qui est là, brusquement, d'aigu, de doux, de simple, d'intolérable, comme l'est l'agonie d'un enfant.
Le fait est qu'en 1924, quand le rencontre Michel Léris, il est devenu violemment athée et aussi ardent dans la négation du catholicisme qu'il fut ardent dans l'embrassement des prescriptions de la religion.
Je ne crois pas que dans la mesure où j'ai eu cette foi catholique, j'étais le moins du monde sur la voie de la sainteté, j'étais peut-être aussi bien sur la voie du péché. C'était mêlé, si vous voulez, certainement pas avec une prédominance de la sainteté.
Il faut en revenir à ceci. Ma piété n'est qu'une tentative d'illusion. À tout prix, je voulais éluder le destin. J'abandonnais mon père.
Michel Léris, à ce moment-là, le décrit comme parfaitement dostoïevskien, comme débauché, comme joueur, comme habitué des tripots et des bordels. C'est quelqu'un qui a, en l'espace estimable de 12 à 14 mois, basculer d'un état religieux qui fut le sien longtemps, durablement et profondément, à un état de négation active, violente, tout ce qu'enjoint le catholicisme.
Oui, c'est l'attirance vers le sacré et vers une certaine sorte de sacré qui est le sacré, ce qu'il appelait le sacré gauche ou le sacré noir, le sacré ignoble, par opposition au sacré saint, et saint S-A-I-N-T, n'est-ce pas ?
Roger Caillois.
Mais qui est aussi saint S-A-I-N, d'ailleurs. Et ce que Breton lui a reproché, par exemple, si je me souviens bien, dans le second manifeste du surréalisme, c'est son goût affiché pour la crasse, pour la saleté, pour le vomissement, enfin pour tout ce qui est dégradant. Et ça, il y tenait beaucoup. Il y avait une espèce de vertige, de, je ne dis pas du mal. Il aurait mis le mot, mais je n'admettrai pas pour lui. C'était pas le mal qu'il voulait, c'était une espèce de pureté inverse, c'est-à-dire l'idée qu'en allant jusqu'au bout de ce qui est possible sur cette teinte, la profondeur et la hauteur aussi bien qu'en essayant de s'élever et de se purifier.
Tout le monde sait ce qui rend l'homme le plus heureux, ce sont les sensations les plus intenses, les... Mais enfin, j'ajouterais ceci de personnel, c'est que ce qui me paraît le plus intéressant dans le sens du bonheur ou du ravissement se rapproche davantage de ce à quoi l'on songe lorsqu'il s'agit de quelqu'un comme Sainte Thérèse ou Saint Jean de la Croix que de la première chose à laquelle j'ai assez visiblement fait allusion.
Le point où nous lâchons le christianisme est l'exubérance. Angèle de Foligno l'atteignit et le décrivit, mais sans le savoir.
C'était une métaphysique de l'obscénité, n'est-ce pas ? Enfin, c'est une des caractéristiques était la métaphysique de l'obscénité et de l'horreur, n'est-ce pas ? L'idée qu'on pouvait aussi bien par l'obscène ou par le blasphème, par l'épouvantable, arriver à l'identification avec l'absolu. Ça, c'était son attitude absolument mystique. Enfin, c'est celle qu'il a développée à partir de 1942, mais qui devait exister avant.
Cela a pris une tournure plus sérieuse à ce moment-là parce que je n'avais plus la foi. Parce que j'avais tout à fait rompu avec cette idée de foi. Tandis qu'auparavant, c'était limité par une croyance catholique. Mais tout de même, à l'intérieur de cette croyance catholique, je me rappelle que je m'étais arrangé pour imaginer que le paradis, c'était la suppression de soi.
En 1924, Bataille rencontre deux personnes qui seront deux de ses plus intimes et fidèles amis jusqu'à sa mort, c'est André Masson et Michel Léris. Chacun sait qu'au début du surréalisme, il y a une sorte de siège, une sorte de papauté, ce sont les termes qu'emploie Masson, qui est rue Fontaine, et qu'il y a deux annexes principales qui sont la rue du Château, qui n'existera qu'un tout petit peu plus tard, et la rue Blemé. La rue Blemé, l'existence de la rue Blemé est antérieure à la naissance du surréalisme. André Masson a une présence, une écoute, une capacité de festive assez rare, qui a fédéré, qui a rallié autour de lui un nombre assez considérable de gens très différents. Bataille se lie tout de suite avec André Masson, avec qui il a en commun les lectures et les goûts de Nietzsche et de Dostoïevski. C'est la nuit qu'il rallie ces gens ou... Des gens très différents, on y trouve Salacrou, on y trouve Hemingway, on y trouve Perret, on y trouve des surréalistes, effectivement. Et l'amitié qui va lier Léris, Masson, Bataille, si elle est constante, et si elle a pu faire naître chez Bataille, chez Léris, avec en fait un troisième personnage qui s'appelle Lavaux, l'idée de fonder un groupe qui se serait appelé Oui, C'est la première idée de groupe qu'a Bataille, en 1924. Idée qu'ils ont de façon charmante dans un bordel la nuit. Un mouvement qui se serait appelé, oui, par opposition à Dada, qui, aux yeux de Bataille, était un mouvement qui se serait caractérisé par le nom. Le oui de Bataille est un oui tout à fait nietzschéen.
Il est certain qu'à partir du moment où je me suis posé la possibilité de descendre aussi loin que possible dans le domaine du rire, j'ai ressenti comme premier effet tout ce que le dogme m'apportait, comme emporté dans une espèce de marée diffluviale qui le décomposait. J'ai senti qu'après tout, il m'était tout à fait possible à ce moment-là de maintenir en moi toutes mes croyances et toutes les conduites qui s'y liaient, mais que la marée du rire que je subissais faisait de ces croyances un jeu. Un jeu auquel je pouvais continuer à croire, mais qui était dépassé par le mouvement du jeu qui m'était donné dans le rire.
On ne peut pas dire qu'à partir du moment où l'on supprime toute espèce de but, il puisse y avoir même rien. Rien, c'est déjà trop dire, puisqu'on s'en fout.
Le nihilisme est une pensée ironique aussi, il faut voir ça. C'est une invention d'un narrateur russe, Tourguenieff, le plus discret, le plus fin, presque le plus nietzschéen, nous venons de le voir. Mais c'est une pensée paradoxale, c'est pas une affirmation lourde de pesanteur, dirait Nietzsche. Et le discours heideggerien en a fait vraiment la marque même de l'esprit de pesanteur. C'est ça dont il faut maintenant nous délivrer. Je crois que le rire et le oui de Bataille nous y aident. Et c'est notre secours.
Je crois que tout ce que j'ai dit qui allait contre les côtés favorables de la vie tenait à ce que j'ai dit tout d'abord, que je crois qu'il faut éviter d'avoir un but et de s'y tenir. Dans la mesure où l'on peut avoir un but, il me semble que l'on doit regarder la vie d'une façon tout à fait défavorable. D'abord parce que ce but est limité par la mort. Mais tant que l'on vit dans l'instant présent, il n'y a lieu que de voir les choses de la façon la plus favorable du monde, puisque l'on n'a plus la moindre préoccupation concernant l'avenir.
Bataille aimait à citer Nietzsche. J'aime l'ignorance touchant l'avenir. La seule philosophie qui fut valable à ses yeux, depuis longtemps, était la philosophie allemande. 1927, publication en Allemagne de Sein und Zeit. Quelques années donc, avant son discours d'allégeance au Führer, Heidegger fait un parcours, en tout cas idéologique, que Bataille jamais n'aura à nous infliger. Le grand professeur allemand le reconnaîtra, qui devait déclarer Bataille, plus tard, meilleure tête pensante française. S'il lut Martin Heidegger, c'est sans avoir jamais eu pour lui autre chose qu'un attrait énervé. Sa situation pour l'heure est de n'avoir encore jamais rien publié, sauf pour Breton, à la demande de Michel Léris. Une transcription en français moderne d'une ou deux des plus significatives fratrasies, des poèmes médiévaux dénués de tout sens. L'avenir, pour l'instant, est encore à la Révolution. Elle le sera, on le verra, à la guerre.
Il est bon de le citer, même si ce n'est qu'anecdotique, parce que ce « oui » s'il devait y avoir une morale de Bataille, une morale rudimentaire, ce serait celle-là qu'il a toujours eue. Celle d'un assentiment, d'une approbation définitive à l'existence, jusqu'à y compris dans ce qu'elle a de tragique. Ce groupe, évidemment, ne vit pas le jour. La revue, qui en aurait été l'organe, bien évidemment, n'en vit pas le jour. On pourrait réduire cela à une sorte de conversation d'ivrogne entre plusieurs prostituées. La nuit, dans un bordel, on pourrait d'autant plus le réduire à cela que Léris et Masson vont rallier Breton aux dépens de Bataille dans sa fondation du surréalisme et de la revue, la Révolution surréaliste. Fin 24, la revue paraîtra en fin décembre 24, tout début 25, les premiers jours de 1925. On dit que Bataille a ressenti cela comme une sorte et de trahison et d'abandon. Bataille, de fait, se retrouve seul. Ça ne sera pas la dernière, mais c'est sans doute la première. Il s'essaie de trouver une première famille intellectuelle, une première famille esthétique, artistique. Il y était mêlé, et un homme, qui est André Breton, réussi à rallier efficacement les plus doués des artistes de ces années-là, des artistes qui vont en fait compter dans tout l'entre-deux-guerres. Bataille est le seul à n'avoir pas rallié Breton et même à n'avoir pas désiré rallier Breton.
Bataille voulait une religion athée. Et c'est une des choses, par exemple, un des reproches qu'il faisait le plus constamment à Breton, c'est de ne pas avoir le sentiment de la religion. En quoi, d'ailleurs, j'imagine qu'il exagérait. Mais en tout cas, c'était cela. Il trouvait que le surréalisme avait une attitude, enfin, d'un matérialisme infantile dans toutes ces questions.
Inconséquent
et vraiment un peu puéril, n'est-ce pas ? C'était certainement un des points qui l'ont le plus éloigné, c'est l'attitude des surréalistes envers la religion, enfin une espèce d'anticléricalisme grossier qu'ils ne partageaient pas du tout. Ça ne veut pas dire que Bataille n'était pas anticlérical, mais en tout cas, pour lui, ça n'avait pas d'importance. C'était le phénomène religieux, et particulièrement sous ses formes les plus paroxystiques, qui l'attirait le plus, c'est-à-dire le sacrifice d'une part et l'extase d'autre part. Et c'est ce Bataille-là, je crois, qui à l'heure actuelle est le plus connu. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque dont vous me parlez, et où je voyais Bataille tous les jours, où nous travaillions vraiment ensemble, où les échanges d'idées étaient continuels, eh bien cet aspect-là couvait sous la cendre. Et on le retrouve probablement dans les inédits qui sont maintenant publiés. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, Bataille n'avait pas du tout publié des livres de ce genre. L'expérience intérieure, qui est le premier ouvrage où son mysticisme éclate, est un ouvrage qui est apparu pendant la guerre.
Il est évident qu'à tout le moins, les conséquences du surréalisme ne peuvent être développées que dans le sens de la négation. Seule la rupture, éliminant la moindre considération de reconnaissance, le moindre égard pour les personnes, pas même un véritable mépris, à peine une dérision grossière, permet de passer de cet infantilisme moral à la subversion libre, à une très basse subversion. Les formes de l'activité mentale, dans ses manifestations les plus intérieures, n'ont pas un développement sensiblement différent du développement des déterminations intellectuelles concernant l'existence économique et sociale. La terre est basse, le monde est monde, l'agitation humaine est au moins vulgaire et peut-être pas avouable. Elle est la honte du désespoir icarien. Mais à la perte de la tête, il n'y a pas une autre réponse. Un ricanement grossier, d'ignobles grimaces. Car c'est l'agitation humaine, avec toute la vulgarité des petits et des gros besoins, avec son dégoût criant de la police qui la refoule, c'est l'agitation de tous les hommes. Or, cette police et les amis de cette police, qui conditionnent seuls les formes mentales révolutionnaires, en opposition avec les formes mentales bourgeoises. Il n'y a pas de bassesse qui tienne, à l'heure actuelle, humainement, à la rage des fins lettrés et des amateurs de poésie maudite, ce qui n'est pas capable d'agiter un cœur de terrassier à déjà l'existence des ombres.
C'est-à-dire qu'il aurait tenté de soustraire à l'influence de Breton des gens qu'il y voyait tomber indûment. Il aurait essayé de les, non pas de les réapproprier pour lui-même, je pense pas qu'à ce moment-là Bataille pensait faire lui-même un groupe qui aurait été en opposition à un Breton. À cette époque-là, en 1924, 25, 26, 27, ce n'est sans doute pas exact. Mais il a l'idée de faire que chacun de ceux qu'il aimait le plus puisse se réapproprier sa liberté. Il considère et il continuera de considérer l'influence de Breton sur ses amis comme une sorte de captation intellectuelle. Et son travail, qui est un travail parfaitement rationnel, parfaitement métaphysique, est celui, Thirion disait, un travail idéologique de sape, d'entrisme, est celui d'une contestation intérieure ou marginale du surréalisme, avec des moyens intellectuels qui ne sont pas loin du surréalisme.
On peut se proposer des buts, et on peut même se proposer de dépasser ces buts, mais c'est un fait que, en restant de ça, en se proposant de les dépasser, mais qu'en fait, on garde la faculté de sauter Un élan considérable peut être réservé à travers ses péripéties, ses obstacles et ses jeux de gribouille.
À 30 ans, dit-il, j'étais si las de ma vie plate, sans gloire et sans moyens, si envieux de la vie plus vraie de ces écrivains reconnus et si las surtout d'être envieux, si colère à l'idée de la plus furtive concession. Donc à 30 ans, il ne veut pas faire la moindre concession à ce qui pourrait faire de lui un grand écrivain.
Bernard Noël.
Au sens bourgeois du terme, ou au sens historique peut-être du terme. Mais il veut faire un certain travail, est en travail de pensée, va le conduire à l'écriture, mais sans exploiter cette écriture dans le sens où l'ont toujours exploité les écrivains, c'est-à-dire pour se faire une figure, finalement pour se faire une tête et un visage. Alors ce qu'il va faire lui, c'est l'inverse, c'est au fond toujours tenter d'effacer la belle expression, enfin ce qui ferait de lui une belle tête, au profit d'un travail qui sans cesse remet en question ses propres acquis. Alors ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on le voit en 28 publier un article de numismatique, enfin qui reflète finalement son savoir de chartiste, mais qu'il perturbe déjà un peu par ce qu'il dit de l'image dans ce travail. Et puis, un peu plus tard, il contribue au cahier de la République des Lettres, des Sciences et des Arts par un article sur l'art précolombien, où finalement, ce qui l'intéresse n'est pas le savoir qu'on peut développer à partir de la connaissance de cette civilisation, mais ce qu'il peut dire quant à lui du sacrifice et de la mort, ce qui est aussi déjà une façon de piétiner le beau visage du savoir.
Bataille a rencontré assez précocement le docteur Borel.
Francis Marmande.
Et en 1926, il a fait une analyse avec lui. Il est à ce titre, c'est une petite anecdote, mais enfin, il est considéré comme le premier écrivain français à être passé sur le divan. Bon, il dit que cette analyse n'était pas tout à fait orthodoxe, on s'en doute, il durait quelques mois. Mais la chose qui est tout à fait importante, c'est que cette analyse avait pour visée, déclarée, hein, il ne s'agit pas de ragots, de débarrasser la personnalité de Bataille telle qu'il la ressentait de toutes sortes de scories et de fantasmes qui l'empêchaient de s'exprimer. Il dit « j'en suis sorti plus viable », ce qui est tout de même un mot étrange. Et d'un autre côté, cette analyse a comme visée aussi de lever un empêchement extraordinairement fort qu'il ressentait vis-à-vis de l'écriture. Il n'arrivait pas à écrire, il a raconté beaucoup plus tard qu'il éprouvait un rapport envieux vis-à-vis des surréalistes dont il exagérait l'œuvre en train de se constituer. Et lui se trouvait pauvre à côté de cela et démuni. Alors de ce point de vue-là, la psychanalyse du docteur Borel, orthodoxe ou non, c'est le docteur Borel qui analysera quelques mois plus tard Michel Léris, mais cette psychanalyse a eu des effets extraordinaires. Là, c'est l'éditeur au sens américain des trois derniers tomes des œuvres complètes de Georges Bataille qui vous parle. C'est-à-dire une œuvre complète qui a été dessinée au début pour tenir dans un projet de 4 volumes chez Gallimard et qui se retrouve continuellement accru depuis la mort de Bataille. Même personne ne savait que l'œuvre de Bataille complète représentait cette masse-là qui tient en 12 volumes de 700 pages maintenant. La graphothérapie du docteur Borel est une des grandes réussites de ce siècle.
Michel Léris.
Sur le conseil de Bataille, je me suis fait psychanalyser. Parce qu'il y avait différentes choses qui, pour moi, ne tournaient absolument pas rond. Je buvais beaucoup, et souvent d'une façon désagréable, avec des souleries absolument ignominieuses. J'étais assez malheureux. J'étais dans des angoisses terribles au sujet de mon travail. Quand il me fallait, par exemple, remettre à une date un article pour document. Bref, ça n'allait pas du tout. Et je suis allé me faire psychanalyser suivant le conseil que Bataille m'avait donné. Et c'est devenu l'âge d'homme.
En 1926, Bataille a 29 ans. Et en 1927, il écrit un texte, L'œil pinéal, qui prendra place dans l'anus solaire, qui est peut-être le texte fondateur, le texte originel. Parce que dit ce texte? Au fond, que nous avons dans la tête une sorte de sexe qui pourrait crever cette boîte de l'intimité qu'est le crâne et être fécondé par le soleil. Alors je me demande si la conscience de cette ouverture possible dans la tête d'une activité tout à fait autre justement que celle qui a été jusque-là, enfin ça n'a pas été la seule, évidemment, pour qu'il en arrive à penser ça, mais celle de l'homme de savoir, du chartiste, du bibliothécaire, etc., ne vole pas tout à coup en éclat avec la découverte de ce possible impossible, à l'intérieur de son crâne. Et si tout ne se décide pas à partir de là, enfin de la mise par écrit de cet organe, enfin jusque-là imperceptible, et enfin imperceptible finalement à chacun.
Vous avez toujours connu votre père aveugle?
Oui, toujours.
Oui, il écrit, si l'on craint l'éblouissement au point de n'avoir jamais vu, que le soleil était écœurant et rose comme un gland, ouvert et urinant comme un méa, il est peut-être inutile d'ouvrir encore au milieu de la nature des yeux chargés d'interrogations. Vers la même époque, Bataille écrit l'histoire de l'œil, enfin histoire l'œil, enfin qui figure dans ce titre. Et qui est à la fois l'œil voyant et l'œil qui introduit dans le sexe, inverse toutes les valeurs. Il y a une espèce de complémentarité et surtout de mise en pratique d'un éclairage interne qui bouleverse au fond toute la pratique intellectuelle. D'abord de Bataille, à travers lui, de tout ce qu'il pensera à partir de lui.
Breton sera constamment dans un rapport de fascination et de répulsion vis-à-vis de Bataille. Avec ce livre-là, que quelques-uns des surréalistes, ça c'est certain, considèrent comme admirable, que Masson lui-même illustre, dessine, qu'édite Pascal Piat. Ce livre-là est une sorte de frange limite du surréalisme. Suffisamment pour que des surréalistes voit se dessiner en Bataille enfin l'écrivain, celui qui était simplement le discoureur de la rue Blomet la nuit, tard, le champagne, les femmes, etc., et les partouzes, voit en Bataille l'écrivain presque alternatif, l'écrivain de rechange de Breton.
Cette histoire de l'œil est publiée en 1928 par un éditeur dont justement l'histoire, me semble-t-il, n'a pas retenu le nom, qui s'appelait René Bonnel, et qui bizarrement publie, cette même année 28, publie à la fois l'histoire de l'œil et un peu plus tard le Conte d'Irène d'Aragon. Il me semble qu'il y a un rapport entre les deux livres, qui est que le personnage dont parle Bataille, dans le texte annexe, la sorte de postface à l'histoire de l'œil, qui s'appelle, je crois, Réminiscence, où il parle de son père aveugle et paralysé par la maladie. Ce qui est étonnant, c'est que dans le roman d'Aragon, le personnage central, qu'on peut imaginer d'ailleurs comme la figure de l'écrivain, ressemble étrangement au père de Bataille, puisqu'il assiste à tous les ébats, d'abord de sa femme, de sa fille, paralysé et muet. C'est-à-dire que le personnage essentiel, le meneur de jeu, au fond, l'écrivain, est celui qui ne peut ni parler, ni bouger.
Cet ouvrage est un ouvrage anonyme.
Mais je veux te dire ceci dès aujourd'hui. Ce qui est arrivé il y a près de 50 ans me fait encore trembler. Et je ne puis m'étonner si un jour je n'ai pas trouvé d'autre moyen de me sortir de là qu'en m'exprimant anonymement. J'ai été soigné, mon état étant grave, par un médecin qui m'a dit que le moyen que j'ai employé, en dépit de tout, était le meilleur que je pouvais trouver.
Donc la publication d'Histoire de l'œil, c'est en 1928. En 1929, l'occasion est enfin offerte à Bataille d'entrer dans une revue, à l'origine de laquelle il n'est pas. Très vite, il arrive à s'arroger une position de direction de fait. Cette revue, c'est Document. Document était plutôt une revue d'archéologie, d'ethnologie, d'histoire de l'art. Pas une revue qui aurait pu faire pendant à celle des surréalistes. Et pourtant, entrant dans Document, s'arrogeant une direction de fait, la direction de droit, c'est Karl Einstein qui l'avait, s'arrogeant une direction de fait de la revue, et faisant entrer soit de ses amis, Léris.
J'étais à ce moment-là le secrétaire de rédaction de la revue Document, dont Bataille était le secrétaire général.
Soit des surréalistes dissidents, Desnos. De fait, de 8 à 9 surréalistes l'y rejoindront. Bataille commence pour la première fois d'y développer sa pensée et sa pensée politique. Sa pensée idéologique, sa pensée esthétique, sa pensée philosophique et sa pensée politique. Si on peut dire que, à ce moment-là, la révolution surréaliste est une sorte de revue, surtout d'instrument du merveilleux, Document pourrait être une sorte d'instrument du monstrueux.
Le gros orteil est la partie la plus humaine du corps humain.
Ce n'est pas sans importance car c'est la première fois que Bataille dispose et d'un organe et de la possibilité de rallier des personnes. Et quand Breton publie le second manifeste du surréalisme, dans lequel les exclusions succèdent aux exclusions, les excommunications aux excommunications, Document fournira l'infrastructure et la logistique d'une riposte aussi immédiate que violente, qui est la publication d'un pamphlet qui s'appelle Un cadavre, que signeront Vitrac, Boifard, Desnos, l'un des plus chers amis de Breton, Queneau, Bataille, etc. C'est une première fracture du surréalisme et c'est la première présence de Bataille dans le débat hostile au surréalisme. La revue Document, hélas, n'existera que 2 ans.
On y retrouve aussi bien des ethnologues que des peintres, que des historiens d'art et des écrivains. Certains étant, comme Léris, des transfuges du surréalisme. Cette revue affirme, enfin dans le contexte de l'époque, la présence de Bataille à travers... des articles où il prend justement position contre l'idéalisme du surréalisme en écrivant des articles aussi provocants que Le Gros Orteil, par exemple, où il considère que c'est assez frappant si on se rapporte à la première phrase de cet article. où il dit que le gros orteil est la partie la plus humaine du corps humain. Que tout à coup, ce soit le gros orteil qui prenne la place de la tête, c'est déjà très significatif.
Ce qu'il y a peut-être de plus durable, à mon avis, chez Bataille, c'est sa passion pour être entendu.
Jean Piel.
Et sa douleur de ne pas l'être. Parce qu'il avait énormément de mal à travailler, mais il a réussi quand même à laisser une œuvre. Alors les œuvres les plus importantes à mes yeux, c'est par exemple ce qui est apparu dans Documents. Il y a là des textes absolument classiques, d'une forme irréprochable et absolument merveilleuse.
Un retour à la réalité n'implique aucune acceptation nouvelle, mais cela veut dire qu'on est séduit bassement, sans transposition, et jusqu'à en crier, en écarquillant les yeux, les écarquillant ainsi devant un gros orteil.
Évidemment, ce que j'ai à dire est tel que son expression a plus d'importance pour moi que le contenu. La philosophie, en général, est une question de contenu. Mais je fais, pour ma part, appel davantage à la sensibilité qu'à l'intelligence. Et dès ce moment, c'est l'expression par son caractère sensible qui compte le plus. D'ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune mesure s'exprimer sous une forme qui ne soit pas sensible. Il n'en resterait absolument rien. C'est seulement à partir du moment où je donne une forme qui pourrait passer pour passionnée, qui peut aussi passer pour noire, mais je préfère dire que je suis un philosophe heureux parce que je ne crois pas être plus noir que Nietzsche. Il y a à partir d'un certain moment une nécessité pour la sensibilité de faire appel au trouble. On ne peut pas émouvoir sans que le trouble soit en jeu. Mais malgré cela, n'est-ce pas, le trouble ne signifie pas le malheur, ne signifie pas le noir.
La révolte, la face décomposée par l'extase amoureuse, arrache à Dieu son masque naïf. Et ainsi, l'oppression s'écroule dans le fracas du temps. La catastrophe est ce par quoi un horizon nocturne est embrasé, ce pourquoi l'existence déchirée est entrée en transe. Elle est la révolution. Elle est le temps délivré de toute chaîne et changement pur. Elle est squelette sorti d'un cadavre comme d'un cocon et vivant sadiquement l'existence irréelle de la mort.
Oui. L'un des premiers articles de Bataille dans Documents, enfin je crois que c'est très exactement le troisième, a trait au langage des fleurs. Alors il parle de la fleur comme du symbole de la beauté, et en ce sens il la compare à la beauté de la jeune fille, mais c'est pour passer très vite à quelque chose d'autre qui apparaît par exemple avec cette phrase. D'autre part, les fleurs les plus belles sont déparées au centre par la tache velue des organes sexués. C'est ainsi que l'intérieur d'une rose ne répond nullement à sa beauté extérieure, que si l'on arrache jusqu'au dernier les pétales de la corolle, il ne reste plus qu'une touffe d'aspect sordide. Et il poursuit la comparaison pour en arriver à ce qu'il dit être cette banalité écœurante que l'amour a l'odeur de la mort. Alors, ce qui me... Enfin, me... à la fois me paralyse et me bouleverse, au fond, c'est que il n'est possible de suivre l'évolution de Bataille qu'à travers les mots même de Bataille. Et que ces mots ne sont jamais, comment dirais-je, instruments de mémorisation d'un savoir de Bataille, mais au contraire, tous à la perte à la fois de ce que dit Bataille, de ce qu'on a pu penser au fur et à mesure avec lui, de telle sorte qu'on s'avance toujours dans un inconnu dont le texte de Bataille, un peu comme Ella Rose, est à la fois l'élan et le terreau, c'est-à-dire le terreau au sens le plus matériel du terme, puisque le terreau est toujours fait de choses en état de putréfaction. Alors, ce qui est étrange, au fond, à chaque fois que j'ouvre Bataille, c'est ce sentiment de retourner à quelque chose, à une pensée qui fleurit, et à la fois à un texte qui a pourri en moi et qui est là, non pas comme la présence de quelque chose d'acquis, ce en quoi on aimerait volontiers transformer les lectures, mais quelque chose qui a fermenté, qui s'est peu à peu transformé, qui s'est perdu, qui s'est volatilisé, mais qui, chaque fois qu'on y retourne, c'est-à-dire chaque fois qu'on le repart de lui-même, vous pousse dans cet élan qui va transformer, je tombe sur un titre, le jeu lugubre de la rencontre, dans ce qu'il a de la rencontre, dans ce qu'elle a de mortel et dans ce qu'elle a d'infiniment présent, en une espèce de floraison à deux, qui est un moment extraordinaire et à la fois un moment perdu.
Ce que je pense et que je représente, je ne l'ai pas pensé ni représenté seul. J'écris dans une petite maison froide d'un village de pêcheurs. Un chien vient d'aboyer dans la nuit. Ma chambre est voisine de la cuisine où André Masson s'agite heureusement et chante. Au moment même où j'écris ainsi, il vient de mettre sur un phonographe le disque de l'ouverture de Don Juan. Plus que toute autre chose, l'ouverture de Don Juan lie ce qui m'est échu d'existence à un défi qui m'ouvre au ravissement hors de soi. À cet instant même, je regarde cet être acéphale, l'intrus que deux obsessions également emportées composent, devenir le tombeau de Don Juan. Lorsqu'il y a quelques jours, j'étais avec André Masson dans cette cuisine, assis, un verre de vin dans la main, alors que lui, se représentant tout à coup sa propre mort et la mort des siens, les yeux fixes, souffrants, criait presque qu'il fallait que la mort devienne une mort affectueuse et passionnée, criant sa haine pour un monde qui fait peser jusque sur la mort sa patte d'employé, je ne pouvais déjà plus douter que le sort et le tumulte infini de la vie humaine ne soient ouverts à ceux qui ne pouvaient plus exister comme des yeux crevés, mais comme des voyants emportés par un rêve bouleversant qui ne peut pas leur appartenir.
Fil perdu, Georges Bataille, par Marc Floriot. Première partie, Bataille, roman. Avec Roger Caillois, Jean-Pierre Faye, Michel Léris, Francis Marmande, Bernard Noël, Jean Piel, Philippe Solers, Michel Suria. Texte de Georges Bataille, lu par Jean d'Autremay. Mixage, Jacques Vinson, Roland Alagnès, Bernard Laniel. Réalisation, Arlette Dave. Deuxième et dernière partie, Bataille politique.
C'était « Qui êtes-vous ? Georges Bataille », une émission d'André Gillois, diffusée pour la première fois le 15 juillet 1951 sur la chaîne nationale.